Transparence, T284. Dans les cours précédents, nous avons décrit les expériences réalisées au MIT, dans l'équipe de Wolfgang Ketterle, à Gettysburg, dans l'équipe de Bill Phillips, et à Munich, dans l'équipe de Ted Hensch, où l'on s'intéresse à mesurer la longueur de cohérence d'un condensat. Dans ces expériences, il y a un seul type d'atome présent dans le piège. Nous allons aujourd'hui décrire un quatrième type d'expérience qui a été réalisé à Boulder dans l'équipe de Eric Cornell et Carl Wieman, où on étudie une situation où deux condensats sont simultanément présents dans le même piège. Les condensats sont en fait des mélanges de deux condensats d'atomes de rubidium 87 préparés dans les niveaux hypersains F égale 1 et F égale 2. Ces expériences sont décrites en détail dans les références 1 à 6 données à la fin de ce cours. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est essayer de décrire un certain nombre de points relatifs à ces expériences. Comment est-il possible de préparer et de détecter de tels mélanges? Quelle est leur dynamique sous l'effet des interactions entre atomes? Est-ce qu'on peut les préparer avec une phase relative bien définie et suivre ensuite l'évolution de cette phase au cours du temps? Avant de commencer ce cours, je voudrais encore mentionner que des expériences analogues ont été réalisées à MIT, dans l'équipe de Wolfgang Ketterle, portant sur des mélanges de condensats d'atomes de sodium préparés dans des sous-niveaux Zeeman différents. Expérience décrite dans la référence 7 donnée à la fin de ce cours. Transparent T285. Le transparent suivant donne un schéma des niveaux d'énergie importants de l'atome de rubidium 87. Vous voyez ici les deux niveaux hyperfins, F égale 2 et F égale 1 de l'état fondamental, avec les différents sous-niveaux Zeeman correspondants dans un champ magnétique donné. Dans un piège magnétique, ne peuvent être piégés que les niveaux dont l'énergie croît avec le module du champ magnétique. Donc, pour le niveau F égale 2, ce sont les niveaux F égale 2, M égale 2 et F égale 2, M égale 1 qui peuvent être piégés. Dans le niveau F égale 1, c'est le niveau F égale 1, M égale moins 1 qui peut être piégé. Par pompage optique, il est possible de préparer les atomes dans l'un quelconque de ces trois états où les atomes peuvent être piégés, et également, en utilisant des faisceaux convenablement polarisés, on peut détecter optiquement et séparément les populations de chacun de ces trois états. Transparent T286. Je vais commencer donc ce cours par la description d'une méthode permettant de produire un mélange de deux condensats par ce qu'on appelle un refroidissement sympathique. Principe décrit dans la référence 1. Le principe est le suivant. On commence par piéger simultanément dans un piège magnéto-optique les atomes de rubidium 87 dans les états F égale 2, M égale 2 et F égale 1, M égale moins 1. Comme le moment magnétique de l'état M égale 2 est deux fois plus grand que celui de l'état M égale moins 1, le piège est beaucoup plus confinant pour l'état F égale 2, M égale 2 que pour l'état F égale 1, M égale moins 1. Il s'ensuit que le nuage d'atomes M égale 2 est beaucoup mieux confiné et que le nuage d'atomes dans l'état M égale moins 1 s'étend beaucoup plus loin. Si l'on effectue alors une évaporation radiofréquence, cette évaporation va enlever préférentiellement les atomes F égale 1, M égale moins 1 qui sont à l'extrémité du nuage d'atomes piégés. Alors, les collisions entre les atomes F égale 1, M égale moins 1 ainsi refroidis et les atomes F égale 2, M égale 2 vont diminuer la température des atomes F égale 2, M égale plus 2 et on va arriver ainsi à obtenir dans le même piège deux condensats d'atomes préparés dans des sous-niveaux magnétiques différents. Transparent T287. La figure donnée dans le transparent suivant donne le nombre d'atomes dans chacun des deux sous-niveaux magnétiques en fonction de leur température. Les ronds pleins sont relatifs aux atomes dans le sous-niveau M égale moins 1, F égale 1, alors que les ronds vides sont relatifs aux atomes dans l'état F égale 2, M égale 2. On constate que lorsque l'évaporation commence, la température diminue, mais comme l'évaporation ne porte que sur les atomes dans l'état F égale 1, M égale moins 1, on constate bien que le nombre des atomes dans ce sous-niveau magnétique diminue, alors que le nombre d'atomes dans le niveau F égale 2, M égale 2, lui, reste constant. Ce qui montre bien que l'évaporation se produit sur le niveau F égale 1, M égale moins 1, et que c'est par des collisions entre les deux espèces d'atomes que le niveau F égale 2, M égale 2, subit lui aussi un refroidissement. Transparent 288. L'expérience que je viens de décrire très brièvement constitue en fait la première mise en évidence d'un refroidissement sympathique sur des atomes neutres. Un tel refroidissement sympathique avait été auparavant démontré dans l'équipe de Deb Wineland à Boulder sur des ions qui interagissent beaucoup plus fortement puisqu'ils interagissent par un potentiel de Coulomb à longue portée. Un intérêt important du refroidissement sympathique d'atomes neutres consiste en la possibilité de refroidir des isotopes rares ou surtout fermioniques. Considérons en effet des fermions polarisés dans le même état de spin. À cause du principe de Pauli, il est impossible d'avoir des collisions dans l'onde S. Les collisions ne peuvent se produire que dans l'onde P ou l'onde S, et ainsi de suite, dans les ondes de moment cinétique impair. Les sections efficaces de collision élastique dans l'onde P sont beaucoup plus faibles que dans l'onde S, et il s'ensuit que le refroidissement évaporatif de fermions à très basse température est extrêmement peu efficace. Il est beaucoup plus judicieux alors de refroidir un isotope bosonique par évaporation et d'utiliser ensuite le refroidissement sympathique pour refroidir l'isotope fermionique en utilisant les collisions entre fermions et bosons. Transparent 289. La figure représentée sur ce transparent, figure extraite de la référence 1, montre une image des deux condensats. On constate l'existence de deux condensats séparés spatialement. La raison est la suivante. Tout d'abord, comme le piège est moins raide pour le condensat F égale 1, M égale moins 1, dont les atomes ont un moment magnétique plus faible, le nuage d'atomes F égale 1, M égale moins 1 est déplacé davantage vers le bas que le nuage que le condensat d'atomes F égale 2, M égale plus 2. Par ailleurs, dans cette expérience, on incline légèrement l'axe horizontal du piège. Je rappelle que le piège, que les atomes piégés donnent naissance à un nuage qui a la forme d'un cigare horizontal. Donc, en inclinant légèrement l'axe horizontal du piège, on peut séparer spatialement également le long d'une direction perpendiculaire à la verticale les deux condensats. Et c'est ce qu'on observe donc sur cette figure. Transparent 290. Cette figure représentée sur ce transparent, qui est elle aussi extraite de la référence 1, montre maintenant une situation où les deux condensats, au lieu d'être séparés spatialement nettement, comme c'était le cas dans le transparent précédent, maintenant s'interpénètrent. Regardez tout d'abord la figure B. Dans ce cas, on a un seul condensat, un condensat pur, d'atomes qui sont tous dans l'état F égale 2, M égale 2. Par contre, sur la figure A, on a maintenant les deux condensats présents, mais optiquement, on ne détecte que les atomes dans le condensat F égale 2, M égale plus 2. Et vous voyez que, par rapport à la figure B, le condensat F égale 2, M égale 2, que l'on détecte, lui, est repoussé vers le haut, par rapport à la position précédente. Et cet effet est dû à la répulsion par les condensats F égale 1, M égale moins 1, que l'on ne détecte pas ici, qui donc n'est pas visible. Par contre, si vous regardez les nuages thermiques, qui sont beaucoup plus faibles, on constate que, aussi bien sur la figure A que sur la figure B, les centres des nuages thermiques sont les mêmes. Transparent 291. On peut se demander maintenant si une telle expérience est généralisable aux autres alcalins que le rubidium. Il faut alors se poser la question de savoir si on ne va pas être limité par les collisions inélastiques lorsqu'on a un mélange de deux espèces. En effet, le refroidissement sympathique d'atomes préparés dans des niveaux hypertermes différents, ne peuvent fonctionner que si les collisions d'échange de spin, qui sont des collisions inélastiques et qui font passer les atomes d'un niveau piégeant vers un niveau non piégeant, restent complètement négligeables devant les collisions élastiques que l'on utilise pour faire le refroidissement sympathique. En fait, une telle condition favorable est réalisée pour le rubidium 96. Et ceci est purement accidentel. C'est parce qu'il se trouve que les longueurs de diffusion AS et AT, des potentiels singulés et triplés de spin, sont pratiquement égales, ce qui conduit à une interférence destructive pour l'amplitude d'échange, amplitude qui est proportionnelle à AS moins AT. On en conclut que les sections efficaces d'échange de spin, proportionnelles à AS moins AT au carré, sont extrêmement faibles, de sorte que les collisions inélastiques restent complètement négligeables devant les collisions élastiques. Une telle circonstance favorable ne se produit malheureusement pas pour les autres alcalins, et les expériences que je viens de décrire ne peuvent pas être généralisables au sodium, au césium et au lithium. Je vous conseille de vous reporter pour plus de détails aux références 8 à 10 données à la fin de ce cours. Transparent 292. Au lieu d'utiliser le refroidissement sympathique pour préparer un mélange de deux condensats, on peut utiliser une autre méthode que je vais maintenant décrire. Supposez qu'on commence par faire du refroidissement évaporatif sur des atomes dans l'état 1, F égale 1, M égale moins 1, et qu'on crée ainsi un condensat d'atomes préparé dans cet état, état que désormais j'appellerai l'état 1. On peut alors appliquer une transition à deux photons, un photon micro-ondes et un photon radiofréquence, qui fait passer les atomes de l'état 1, F égale 1, M égale moins 1, à l'état 2, F égale 2, M égale 1. Suivant la longueur et l'intensité des champs micro-ondes et radiofréquences, le couplage de Rabi effectif entre les deux niveaux 1 et 2 peut correspondre à une impulsion pi sur 2 ou à une impulsion pi ou à tout type d'autres couplages. Transparent 293. Diverses études sont alors possibles. Tout d'abord, après l'impulsion micro-ondes radiofréquence, on peut préparer un état initial contenant des proportions arbitrairement choisies des condensats 1 et 2. Comme les deux condensats peuvent être détectés séparément par des méthodes optiques et qui ne se transforment pas spontanément l'un dans l'autre parce que l'émission spontanée de l'état 2 vers l'état 1 est complètement négligeable, on peut les considérer comme deux fluides discernables et se poser la question de leur dynamique sous l'effet des interactions. Un autre problème est lié au fait que l'impulsion crée une certaine phase relative entre les deux condensats. Un instant T après la préparation des deux condensats, on peut appliquer une deuxième impulsion qui va fournir un signal d'interférence sensible à la nouvelle valeur de la phase relative. Et on peut se poser à ce moment-là la question de savoir quelle est l'évolution de la phase relative entre les deux condensats, entre la première impulsion et la deuxième impulsion. Transparent 294. Je vais tout d'abord m'intéresser ici à la dynamique du système une fois qu'on a préparé le mélange des deux condensats. Donc, on part de quel état initial? Après avoir préparé un condensat 1, une impulsion micro-ondes plus radiofréquence très brève permet de préparer soit un condensat 2 pur, si l'impulsion est une impulsion pi, soit une superposition linéaire à poids égaux de 1 et 2, si l'impulsion est une impulsion pi sur 2. Je vais supposer ici que l'impulsion est extrêmement brève, de sorte que la fonction d'onde initiale du condensat 1, phi 0 de R, ne change pas. Seul l'état de spin change. Ainsi, dans une impulsion pi, l'état de spin change brusquement de 1 vers 2, alors que dans une impulsion pi sur 2, il passe de 1 à 1 sur racine de 2, de 1 plus 2. On voit qu'on a à sa disposition un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut jouer. En réglant le champ magnétique, c'est-à-dire la raideur du piège, et en utilisant la gravité et certaines caractéristiques du piège top, qui sont décrites plus en détail dans les références données à la fin de ce cours, on peut faire en sorte que les centres des deux pièges pour 1 et 2 soient soit confondus, soit légèrement décalé verticalement. Transparent 295. Après la préparation, les systèmes vont évoluer, les deux condensats vont évoluer, et cette évolution est régie par des équations de Gross-Pitaïsky. Ici, par rapport aux situations que nous avons étudiées précédemment, nous avons affaire à des équations de Gross-Pitaïsky couplées. Par exemple, le condensat, l'évolution du condensat 1 est décrite par l'équation IH bar phi'1 égale moins H bar 2 sur 2M laplacien plus V1 plus G1 phi 1 carré plus G1 2 phi 2 carré, le tout multiplié par phi 1. Dans cette équation, GI vaut 4 pi H bar 2 sur M AI, où AI est la longueur de diffusion des collisions de l'espèce I contre l'espèce I. GIJ, 4 pi H bar 2 sur M AIJ, où AIJ est la longueur de diffusion caractérisant les collisions espèce I contre espèce J différente de I. Évidemment, par symétrie, on a AIJ égale AJI. On voit ici que le terme nouveau, par rapport aux équations que nous avons étudiées précédemment, et le terme croisé, G12 phi 2 carré fois phi 1, qui décrit comment l'évolution de l'état phi 1 est perturbée par le couplage avec le condensat 2. L'équation phi 2 est pour le condensat 2, l'équation qui régit l'évolution phi 2 est analogue à l'interversion près des indices 2 et 1. Ces deux équations conservent le nombre N1 et N2 d'atomes dans chaque condensat, et à partir de leur résolution, on peut étudier la structure de l'état fondamental et celle des premiers états excités des deux condensats. Je vous rappelle que pour le rubidium 87, les longueurs de diffusion singulées et triplées sont très proches l'une de l'autre, A est très proche de AT, et ceci entraîne que G1 est à peu près égal à G2 et à peu près égal à G1,2. De manière plus précise, G1, G1,2 et G2 sont proportionnels à 1.03, 1 et 0.97. Transparent 296. Une question importante que l'on peut se poser maintenant, c'est de savoir si les deux condensats vont se mélanger ou au contraire s'ils vont se séparer. Remarquons tout d'abord de manière qualitative que si G1,2 était beaucoup, beaucoup plus grand que G1 et G2, on aurait intérêt à ce que les deux condensats se séparent pour minimiser les interactions entre 1 et 2, entre atome 1 et atome 2. Nous allons maintenant étudier le problème de manière un peu plus précise en essayant de déterminer la condition de séparation dans le cas simple où les deux condensats sont enfermés dans une boîte. C'est-à-dire au lieu de considérer un piège harmonique, on va considérer maintenant une boîte, c'est-à-dire un système homogène. Et nous allons considérer maintenant deux états possibles du système, 1 et 2. L'état 1 correspondant à deux condensats mélangés dans le volume V, j'appelle E1 l'énergie de l'état 1. Donc je rappelle que cet état correspond à grand N atome 1 dans l'état V, dans le volume V, et grand N atome 2 dans le volume V. L'autre état que je considère maintenant, c'est au contraire un état où les deux condensats sont séparés spatialement. Le condensat 1 occupe un volume petit x V, où x est compris entre 0 et 1, et par suite, le condensat 2 occupe un volume 1 moins petit x V. Donc, l'état 2 d'énergie E2 correspond à n atome 1 dans le volume petit x V et n atome 2 dans le volume 1 moins petit x V. Transparent 297. Calculons maintenant plus précisément E1 et E2. E1 tout d'abord. E1 est tout simplement égal à 1 demi de G1 n carré sur V plus 1 demi de G2 n carré sur V plus G1 2 n carré sur V. Ces trois termes décrivent respectivement l'énergie d'interaction liée aux interactions 1-1 pour le premier, 2-2 pour le second, 1-2 pour le troisième. On a donc E1 égale n carré sur 2V fois G1 plus G2 plus 2G1 2. Quant à E2, il a maintenant une expression où ne figure plus l'effet des interactions 1-2 puisque les atomes, les condensats 1 et 2 sont séparés. Et on a tout simplement E2 égale 1 demi de G1 n carré sur XV, XV parce que le volume du condensat 1 est XV, plus 1 demi de G2 n carré sur 1 moins XV, 1 moins XV parce que le volume du condensat 2 est 1 moins XV. De sorte que E2 est égal à N2 sur 2V que multiplie G1 2 sur X plus G2 sur 1 moins X. le crochet ici, appelons-le g grand G de x, et on voit que c'est une fonction qui dépend de x. En fait, la valeur optimale de x est celle qui minimise grand G de x. Calculons alors la dérivée d grand G sur dx, qui est égale à moins g1 sur x2 plus g2 sur 1 moins x au carré. En égalant à 0 cette quantité, on obtient l'équation g1 1 moins x au carré égale g2 x2, d'où l'on tire x égale racine de g1 sur racine de g1 plus racine de g2, et par suite, 1 moins x égale racine de g2 sur racine de g1 plus racine de g2. Reportons ces valeurs dans l'expression de grand G de x. On obtient alors grand G de x égale racine de g1 fois racine de g1 plus racine de g2 plus racine de g2 fois racine de g1 plus racine de g2. On reconnaît racine de g1 plus racine de g2 le tout au carré, qui est égal à g1 plus g2 plus 2 racine de g1 g2. Et on déduit que la valeur de E2 pour la valeur optimale de petit x est égale à n carré sur 2v fois g1 plus g2 plus 2 fois racine de g1 g2. On calcule maintenant E1 moins E2 qui est égal à n2 sur v fois g1 2 moins racine de g1 g2. Et l'on voit alors immédiatement, premièrement, que si g1, 2 est supérieur à racine de g1, g2, et 1 est supérieur à E2, donc c'est l'état 2 qui est favorisé, donc les deux condensats se séparent. Par contre, si g1, 2 est plus petit que racine de g1, g2, c'est E1 qui est plus petit que E2, c'est l'état 1 qui est favorisé, et on a à ce moment-là un mélange de deux condensats. Transparent 298. Revenons à nos deux condensats 1 et 2 simultanément présents dans un piège. Pour le rubidium 87, G1,2 est très voisin de racine carrée de G1, G2, et l'on conçoit que l'état du système sera très sensible aux symétries des deux pièges. Tout d'abord, si les deux potentiels V1 et V2 sont strictement identiques, le fait que G1 soit supérieur à G2 peut favoriser une structure où le condensat 1 se met au pourtour du condensat 2 pour diminuer sa densité, et pour donc diminuer le terme d'interaction lié à G1. Par contre, si on déplace les centres des deux pièges, on peut favoriser une séparation verticale plutôt que radiale. En fait, ces deux types de structures ont été observés expérimentalement. Statique transparent 299. La figure représentée sur ce transparent, figure extraite de la référence 4, montre des exemples de situations du type de celle que je viens de mentionner. La figure A représente une image du condensat formant un anneau autour du condensat 2. On distingue au centre de l'image un cratère qui correspond aux atomes dans l'état S égale 2 qu'on ne voit pas. De tels atomes sont vus dans la figure petit b, où l'on voit maintenant l'image du condensat 2 au centre du cratère précédent. Enfin, dans la figure c, il y a un déplacement du centre des deux pièges qui conduit à un déplacement du condensat 1 vers le haut. Là, les deux condensats sont légèrement séparés spatialement. Transparent 300. La figure suivante, donc extraite de la référence 4, représente une étude très détaillée de la dynamique des deux condensats. À l'instant t égale 0, une impulsion pi sur 2 prépare une superposition à poids égal des deux condensats 1 et 2, et en jouant sur les faisceaux de détection, on peut mesurer et photographier séparément les atomes dans l'état 1, les atomes dans l'état 2, ou les atomes dans les deux états 1 et 2. Et chacune des figures qui est présentée ici représente ces trois grandeurs, évolution de 1, évolution de 2, évolution de la somme 1 plus 2, en fonction du temps après la pulsion de préparation. Transparent 301. Un certain nombre de caractéristiques intéressantes peuvent être déduites de la figure précédente. Tout d'abord, on constate que les structures spatiales des condensats 1 et 2 évoluent de manière, au début, très importante et finissent par se stabiliser au bout d'un certain temps. Vous notez cependant que l'écart final des deux distributions dans l'état stationnaire qui est atteint est grand devant l'écart entre le centre des deux pièges. Il y a cependant une zone où les deux condensats se recouvrent. Ces considérations apparaissent plus clairement dans la figure suivante, extrait de la référence 4, qui donne, en fonction du temps, la position verticale des centres des deux condensats. Entrée en rond plein, le condensat F égale 2, M égale 2. En rond vide, le condensat F égale 1, M égale moins 1. On constate effectivement que les centres des deux condensats commencent par bouger de manière importante et puis se stabilisent au bout d'un certain temps, au bout de 60 à 80 millisecondes, et forment, et à ce moment-là, sont séparés par une distance qui est tout à fait appréciable devant l'écart entre les centres des deux pièges. Transparent 302. On constate sur la figure du transparent 300 que, alors que la forme de chaque condensat varie de manière appréciable au cours du temps, avant de se stabiliser, la somme des densités des deux condensats, par contre, elle évolue très peu. Un tel résultat peut être interprété à partir de les équations de Gross-Pitaïevski du transparent 295 à la limite de Thomas-Fermi. En effet, ces équations montrent que si V1 est très voisin de V2, et si G1, G2, G1,2 sont très peu différents, ce qui est le cas pour le rubidium 87, la forme de φ1 carré plus φ2 carré est en régime stationnaire une parabole inversée. Il suffit d'ajouter les deux équations pour s'en rendre compte. De même, si le condensat 1 est tout seul, on obtient la même parabole inversée en régime stationnaire. Idem pour le condensat 2. Nous voyons ici que l'état initial obtenu après l'impulsion φ sur 2 est très peu différent de l'état stationnaire pour φ1 carré plus φ2 carré. On comprend ainsi pourquoi φ1 carré plus φ2 carré évolue peu. Par contre, φ1 carré, lui, est très sensible aux petites différences qui existent entre G1, G2 et G1,2, et c'est la raison pour laquelle, lui, il évolue de manière appréciable. Il en est de même pour φ2 carré. Transparent 303. Après avoir étudié la dynamique du mouvement des deux condensats, nous allons maintenant, dans une cinquième partie, étudier l'évolution de la phase relative entre ces deux condensats. Je vais décrire ici des expériences qui sont décrites dans la référence 5 donnée à la fin du cours. Le principe est le suivant. Une première impulsion π sur 2 introduit une phase relative bien définie entre les deux condensats. Une deuxième impulsion, appliquée un temps grand T après la première, permet de lire la nouvelle valeur de la phase relative. On réalise en quelque sorte une expérience analogue à celle des frances de Ramsey dans le domaine temporel. Les résultats observés montrent alors que le comportement de la phase relative dépend beaucoup des valeurs de l'intervalle de temps grand T qui sépare les deux impulsions. Tout d'abord, si l'on prend des temps grand T très courts, on peut dire que la dynamique spatiale des deux condensats est négligeable pendant le temps grand T. Juste après la première impulsion, le recouvrement des deux condensats est parfait et seule la dynamique des deux degrés de liberté de spin est à prendre en compte. Transparent 304. Pour comprendre cette évolution des degrés de liberté de spin, la description en termes de spin fictif 1/2 dans le référentiel tournant est particulièrement commode. Vous voyez, nous partons ici d'un spin S0 le long de Zn, et la première impulsion, π sur 2, peut être considérée comme produisant une rotation de S autour du champ B1 associé au champ qui provoque la transition, et l'angle de la rotation est égal à π sur 2. S0 passe de S0 à S1. Après l'impulsion, l'angle entre la nouvelle valeur, entre la nouvelle direction du spin fictif et le champ équivalent B1 qui effectue la transition est égal à π sur 2. Pendant le temps d'évolution libre, grand T, S1 va tourner dans le plan horizontal à une fréquence oméga 0 sur 2 pi, qui est la fréquence de la transition qui relie les deux états 1 et 2, fréquence en général différente de celle oméga sur 2 pi de l'oscillateur qui délivre l'impulsion et qui est la fréquence à laquelle tourne le champ B1. De sorte que quand on applique la deuxième impulsion π sur 2, l'angle entre B1 et S1 n'est plus égal à π sur 2, mais à π sur 2 plus delta t, delta égale oméga 2 moins oméga 0, et l'écart entre la fréquence du champ micro-ondes plus radiofréquence, le champ effectif qui induit la transition, et la fréquence propre de la transition 1-2. On voit ici, sur la figure, maintenant, un angle θ entre B1 et S1 qui vaut π sur 2 plus delta t. À ce moment-là, lors de la deuxième impulsion, S1 va précesser autour de B1 et les composantes de S1 sur l'axe Z qui vont apparaître, c'est-à-dire les populations des états 1 et 2, on voit à ce moment-là qu'elles vont varier périodiquement avec la durée t qui sépare les deux impulsions, puisque cette projection de S1 sur Z au cours de la précession n'est pas la même suivant les valeurs de l'angle θ entre B1 et S1. Transparent 305. La figure représentée sur le transparent 305, figure extraite de la référence 6, donne un exemple de frange de Ramsey observée pour des temps grand T très courts, au maximum de l'ordre de 12 millisecondes. On voit une oscillation d'amplitude constante. Si vous voulez, pour grand T égale 0, l'ensemble des deux impulsions π sur 2 séparées par un intervalle de temps infiniment court est équivalent à une impulsion π, et on voit que le transfert de l'état 1 vers l'état 2 est maximal. Par contre, quand on augmente grand T, l'angle θ va varier. Pour une certaine valeur, il va être égal à 0, et à ce moment-là, le transfert sera nul, et ensuite, on aura une oscillation périodique. Effectivement, ici, dans cette expérience, delta sur 2π est de l'ordre de 360 Hz, et ceci correspond bien à la période des oscillations observées sur cette figure. Transparent 306. Que se passe-t-il pour des temps T plus longs, des temps qui vont jusque vers 40 millisecondes? À ce moment-là, nous avons vu précédemment que les deux condensats sont en mouvement. Du fait de ce mouvement, des gradients de phase apparaissent, puisque nous savons que à toute vitesse est associé un gradient de phase. Donc, chacun des deux condensats n'a plus une seule phase. De plus, les deux condensats se séparent et leur recouvrement diminue. Tous ces phénomènes entraînent que le contraste des franges doit diminuer, et c'est bien ce qu'on observe expérimentalement. Voici par exemple la figure, une figure extraite de la référence 6, et qui montre que les franges précédentes, lorsque le temps grand T augmente et atteint des valeurs de 40 millisecondes, le contraste de ces franges diminue progressivement. Transparent 307. Pour des temps encore beaucoup plus longs que les temps précédents, on peut considérer que les condensats atteignent un régime stationnaire. Ils sont alors immobiles et on peut penser qu'il n'y a plus de gradient de phase pour chacun d'eux. Chacun a une phase bien définie. Il ne faut pas oublier cependant que les condensats ne se recouvrent plus complètement et que l'interférence entre eux ne peut être observée que dans la zone où ils ont recouvrement. Dans cette zone, la deuxième impulsion π sur 2 va augmenter la densité de l'un des deux condensats, alors qu'elle va diminuer l'autre, la densité de l'autre. Donc on va avoir pour l'un des deux condensats, dans cette zone de recouvrement, une interférence constructive et une augmentation de la densité, compensée par une diminution de la densité, toujours dans la même zone de recouvrement, pour l'autre condensat. Transparent 308. Récapitulons la séquence temporelle des impulsions et des phénomènes que l'on s'attend à observer. Je représente ici une figure extraite de la référence 5. Dans la partie de gauche, je représente N2. Dans la partie de droite, N1. À des instants, les figures A, B, C, D, E, F correspondent à des instants successifs. D'abord, avant d'appliquer la première impulsion en deux fréquences, on a un condensat 1 pur, donc N1 est différent de 0, N2 est égal à 0. Juste après l'impulsion π sur 2, la première impulsion π sur 2, on a une proportion égale de 1 et de 2, on a donc N1 et N2 simultanément non nuls et ayant à peu près la même forme. Entre 0 et 45 millisecondes, figure C, les condensats évoluent de manière complexe et se séparent, et atteignent un régime stationnaire au bout d'un temps de l'ordre de supérieur à 45 millisecondes, ce qui est représenté sur la figure B. On voit à ce moment-là que les centres des deux condensats sont distincts et que ces deux condensats présentent une zone de recouvrement. Au bout d'un temps grand T, donc, supérieur à 45 millisecondes, on applique la deuxième impulsion π sur 2 qui transforme chacun des deux condensats en une superposition de 1 et de 2. Et on obtient donc une densité représentée sur la figure E où on voit une zone de recouvrement. Alors, si on suppose que l'interférence entre les deux condensats est constructive pour l'espèce de type 2 dans la zone de recouvrement, on va trouver que, après l'instant grand C, la densité au centre de la zone de recouvrement va augmenter pour N2 alors qu'elle va diminuer pour N1. Transparence 309. C'est bien effectivement ce qu'on observe expérimentalement, comme cela apparaît sur la figure suivante, extraite de la référence 5. Sur la figure petit a, on représente les densités N2 et N1 juste avant la deuxième impulsion pi sur 2. Entrée plein est représentée N1, entrée pointillée N2. On voit que les deux courbes N2 et N1 sont séparées. Les centres des deux condensats sont séparés spatialement. Juste après la deuxième impulsion pi sur 2, on s'aperçoit à ce moment-là que la courbe en pointillé, c'est-à-dire N2, a augmenté au centre, alors que la courbe en trait plein, N1, a diminué. On voit bien ici apparaître une interférence constructive pour N2 et en même temps destructive pour N1. Transparent 310. La figure suivante, extraite de la référence 5, montre la variation du signal d'interférence précédent avec l'intervalle grand T qui sépare les deux impulsions. On s'aperçoit que si l'on porte la densité au centre de la zone de recouvrement pour l'un des deux condensats, la variation de cette densité avec grand T est une fonction périodique de grand T, et on s'aperçoit également que lorsqu'on change l'écart delta entre oméga et oméga 0, cette période change puisque nous savons que la fréquence des fréquences d'interférence est proportionnelle à delta. Et bien effectivement, ce qu'on observe, lorsqu'on passe de petit a à petit b, delta égale oméga moins oméga 0 a été augmenté de 2 pi fois 360 Hz, et on constate effectivement que la période des franges diminue. Transparence 311. Pour terminer ce cours, nous allons considérer maintenant et étudier le brouillage de la phase relative entre les deux condensats sous l'effet de leurs interactions. Dans un cours précédent, le cours numéro 6, nous avons montré que la dispersion sur N1 moins N2, essentielle pour avoir une phase relative initiale bien définie, entraîne un brouillage de la phase relative au cours du temps. On va supposer ici que N1 plus N2 reste constant. À quoi est dû un tel brouillage? Introduisons les deux états, N1 plus 1, N2 moins 1, correspondant à N1 plus 1 particule dans le condensat 1, N2 moins 1 particule dans le condensat 2, et l'état N1, N2, contenant N1 particule dans le condensat 1 et N2 particule dans le condensat 2. Si l'on appelle grand oméga N1, N2 égale 1 sur h bar E de N1 plus 1, N2 moins 1, moins E de N1, N2, je vous rappelle que le brouillage de la phase relative est dû au fait que les fréquences de bord, oméga N1, N2, qui sont celles qui apparaissent dans l'évolution de la fonction de corrélation absi 1 croix, absi 2, sont dispersées sur un intervalle delta oméga quand N1 et N2 varient dans un intervalle delta N autour de N1 moyen plus et N2 moyen, avec bien sûr N1 plus N2 égale N1 moyen plus N2 moyen. Comme ces fréquences de bord sont dispersées, elles vont interférer de manière destructive au bout d'un certain temps, et c'est ce qui est responsable du brouillage de la phase relative. Par rapport au cours 6, nous allons tenir compte maintenant du fait que les deux condensats interagissent, c'est-à-dire qu'on tient compte d'une valeur non nulle de G1,2, alors que dans le cours 6, seuls G1 et G2 étaient non nuls. La méthode que nous allons suivre ici est inspirée d'un article de Yvan Katnin et Alice Sinastra, qui est à paraître dans le European Physics Journal D. Transparent 312. Calculons alors la différence d'énergie E de N1 plus 1, N2 moins 1, moins E de N1, N2. Comme N1 et N2 sont très grands, devant 1, on peut faire un développement limité et écrire E de N1 plus 1, N2 moins 1, égale, à peu près égal à D sur DN1 moins D sur DN1, N2, de E N1, N2. C'est-à-dire encore mu1 de N1, N2 moins mu2 de N1, N2, puisque les potentiels chimiques sont les dérivés des énergies par rapport à N1 et N2. On voit ici que la différence des potentiels chimiques mu1 moins mu2 des deux condensats 1 et 2 joue en quelque sorte le rôle de la fréquence de Larmor pour un spin 1/2. Calculons alors la dispersion delta grand oméga sur mu1 moins mu2 sur alpha, c'est-à-dire la fréquence de bord correspondante, quand n1 et n2 varient sur un intervalle delta n autour de n1 moyen et n2 moyen. On peut écrire h bar oméga de n1 n2 égale mu1 n1 n2 moins mu2 n1 n2, et par suite delta oméga à peu près égal à grand oméga de n1 moyen plus delta n n2 moyen moins delta n moins oméga de n1 moyen n2 moyen, c'est-à-dire encore, faisant le développement limité, delta n d sur dn1 moins d sur dn2 de oméga n1 n2 pris pour n1 égale n1 moyen et n2 égale n2 moyen. Une fois qu'on a calculé delta oméga, on en déduit le temps de brouillage qui est tout simplement t de cohérence égale 1 sur delta oméga. Pour calculer delta oméga, on va se limiter ici, tout au moins un ordre de grandeur de delta oméga, on va se limiter ici au cas simple d'un mélange homogène de deux condensats dans une boîte de volume V égale L3. Transparent 313. Quelle est l'expression de EN1N2 pour un mélange homogène de deux condensats? On a bien sûr EN1N2 égale 1 demi de G1 N1 carré sur V, énergie du condensat 1, plus 1 demi de G2 N2 carré sur V, énergie du condensat 2, plus G1 2, N1N2 sur V, énergie d'interaction entre les deux condensats. De cette expression, on déduit les expressions du potentiel chimique mu1 de N1N2 et mu2 de N1N2. En effet, mu1 N1N2, c'est D sur DN1 de EN1N2, c'est-à-dire G1 N1 sur V plus G1 2 N2 sur V. Mu2 de N1N2, c'est D sur DN2 de EN1N2, c'est-à-dire G2 N2 sur V plus G1 2 N1 sur V. Il s'ensuit que mu1 N1N2 moins mu2 N1N2 n'est autre que G1 N1 sur V moins G2 N2 sur V plus G1 2 N2 moins N1 sur V. Et par suite, H bar oméga N1 N2 est égal à mu1 N1 N2 moins mu2 N1 N2 donné par l'expression précédente. On peut alors calculer delta oméga. Delta oméga, d'après l'expression donnée dans le transparent 312, n'est autre que delta N d sur dn1 moins d sur dn2 de oméga n1 n2 calculé pour n1 égale n1 moyen et n2 égale n2 moyen, et on en déduit immédiatement que delta oméga égale delta n sur h bar v g1 plus g2 moins 2 g1 2. Transparent 314. Pour interpréter la formule précédente, commençons par supposer parvenir au cas simple où g1 2 égale 0, mais où bien sûr g1 et g2 sont de tous les deux non nuls. On a alors delta oméga égale delta n sur h bar v fois g1 plus g2. Limitons-nous au cas simple où n1 moyen égale n2 moyen égale n sur 2 et où g1 égale g2 égale g. Si l'on prend delta n égale racine de n, on obtient alors delta oméga égale racine de n sur h bar v fois g. Par ailleurs, mu1 est égal à mu2 qui est égal à mu est égal à gn sur v, de sorte que on peut encore écrire mu' égale dmu sur dn égale g sur v. En comparant avec l'expression précédente de delta oméga, on voit qu'on peut à ce moment-là écrire delta oméga égale mu' racine de n sur h bar, de sorte que le temps de cohérence, t cohérence, égale 1 sur delta oméga, est égal à h bar sur mu' racine de n. On retrouve ainsi exactement le résultat du cours numéro 6 donné dans le transparent 188. Nous voyons alors que si l'on prend G1,2 différent de 0, mais si l'on suppose G1 plus G2 moins 2 G1,2 égale 0, on trouve alors que delta oméga égale 0 et que T cohérence, le temps de cohérence, devient infini. On trouve alors un résultat un peu spectaculaire, à savoir que les interactions entre les condensats 1 et 2 peuvent supprimer le brouillage de phase. Transparent 315. Comment interpréter un tel résultat qui semble, à première vue, tout à fait étrange? Il faut alors noter que pour un delta n donné, ce qui compte, c'est la variation de mu1 moins mu2 quand n1 augmente de plus 1 et n2 diminue de moins 1. Lorsque g1,2 égale 0, c'est-à-dire lorsque les deux condensats n'interagissent pas, quand n1 augmente d'une unité, mu1 augmente, parce qu'il y a davantage d'atomes dans le condensat 1, et en même temps n2 diminue, et mu2 diminue, T car il y a moins d'atomes dans le condensat 2. Donc mu augmentant et mu 2 diminuant, mu 1 moins mu 2 augmente. Que se passe-t-il quand j'ai un 2 différent de 0? Quand on fait passer un atome du condensat 2 au condensat 1, l'interaction d'un atome du condensat 1 avec les autres atomes de ce condensat 1 augmente bien, car N1 augmente. Mais en même temps, l'interaction de cet atome avec les atomes du condensat 2 diminue, car N2 diminue. La variation de mu1 peut donc être plus faible, parce que l'augmentation de mu1 due à l'interaction avec les atomes 1 peut être compensée par une diminution de mu1 due à la diminution de l'interaction avec les atomes 2. Il en est de même pour mu2. Donc on conçoit que mu1 moins mu2 peut varier beaucoup moins quand g1,2 est différent de 0 que quand g1,2 est égal à 0. D'autre part, je vous rappelle que pour le rubidium 87, on a à peu près 2g1,2 est à peu près égal à g1 plus g2, et c'est ce qui explique, c'est ce qui permet peut-être de comprendre la robustesse de la phase relative qui subsiste, qui survit après une dynamique spatiale extrêmement complexe des deux condensats. Les deux derniers transparents, 316 et 317, regroupent un certain nombre de références relatives au cours que je viens donc de donner sur des mélanges de deux condensats simultanément présents dans un même piège.